Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici et ailleurs, connectés à la toile. Bienvenue à notre rencontre de ce soir qui est dédiée aux pratiques de Bodhisattva, aux pratiques des vaillants. Nous étudions les 37 pratiques de Bodhisattva et nous allons commencer par refuge et bodhicitta, orientation d'éveil et motivation d'éveil pour le bien de tout vivant. Sangye jnanam sudin Je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous avions, lors de notre dernière réunion, vu l'importance de savoir se séparer des mauvais amis, des personnes qui stimulent les passions, les illusions, qui stimulent les distractions, personnes ou circonstances, et de savoir se tenir à l'écart, en quelque sorte, des facteurs de régression. La stance suivante, qui est la sixième, s'intitule « Affectionner l'ami de bien ». C'est le contraire de la précédente. Autant il est important de savoir ne pas tomber sous l'influence des mauvais amis, autant il est important, et même encore plus, de savoir se rapprocher de ce que l'on nomme ami de bien. L'ami de bien, en sanskrit, le Kalyanamitra, est aussi l'ami de vertu, c'est celui qui nous guide, celui qui nous accompagne sur la voie, celui qui nous inspire, celui ou celle, bien sûr, qui nous montre la voie et qui est ainsi un ami de bien, un ami de vertu, celui qui éveille en nous ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est vertueux. Remarquez que bon, bien et vertueux, ici sont synonymes. Il y a dans la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel, plusieurs niveaux. Nous en avions déjà parlé. Il y a celui d'abord un précepteur, un ancien qui est un professeur, qui a plus d'expérience, qui nous montre, explique. Un professeur au sens fort. La notion d'ami de bien, qui est le deuxième niveau, est déjà plus profonde au sens où l'ami de bien est plus qu'un professeur. C'est un ami de cœur. C'est une personne avec laquelle on a un lien de cœur et de confiance profond qui fait que l'on peut avec cette personne, se confier, s'ouvrir. Le propre de l'ami de bien est de nous permettre de nous ouvrir. De nous ouvrir, de nous dévoiler, de nous confier, de nous révéler. Tout cela étant autant d'aspects ou de qualités d'ouverture. Et l'ami de bien peut ensuite encore évoluer dans la voie initiatique en un maître de la voie initiatique qui, en plus d'être un ami de bien, est un maître source de transmission et prescripteur dans ce qu'il y a de plus essentiel dans une relation interpersonnelle au niveau le plus profond. Ici, nous sommes dans le contexte de la voie universelle dont l'on parle de l'ami de bien. Et l'instant 6 nous dit, parlant de cet ami de bien, il fait s'épuiser les défauts de quiconque s'en remet à lui et fait s'épanouir toutes les qualités comme croit la lune. Donc, il a déjà cette double fonction qui est de faire décroître les défauts et de faire s'accroître les qualités. Chérir ce noble professeur, plus encore que son propre corps, ainsi affectionner l'ami de vertu, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc, il y a plusieurs volets dans cette stance. La première, c'est l'importance de l'ami de bien, l'importance du guide. Le guide est, certaines fois, dit-on, comme un passeur, comme une escorte. Il nous aide à passer au-delà des passions, des illusions. Il nous escorte en nous protégeant des errances, des difficultés. Il est aussi une source d'inspiration, il est un exemple. Il est aussi la source de la transmission. Pratiquement, tous les Bouddhas, tous les éveillés, se sont toujours éveillés en s'en remettant à un ami de bien. S'éveiller vraiment comme cela, spontanément, sur l'autoroute, au feu rouge, ou n'importe où, relève plus d'une chimère que d'une réalité. On dit certaines fois que tous les Bouddhas des trois temps se sont éveillés en s'en remettant à un ami de bien. Certaines fois, on discute de cela en disant « Mais le Bouddha Sakyamuni a trouvé l'éveil, l'a découvert. » C'est vrai, mais il eut néanmoins précédemment des maîtres qui le conduirent jusqu'au niveau le plus élevé des réalisations ordinaires, duelles. Donc, il franchit la dernière étape seul. Mais et il y a toujours quelque chose finalement de spontané, d'inattendu dans la réalisation, mais tous se sont, tout Bouddha, Bodhisattva, se sont éveillés en sachant d'abord s'en remettre et suivre un ami de bien. C'est quelque chose de très important, surtout à l'époque actuelle où il y a énormément de confusion. Alors, l'ami de bien est une personne qualifiée. Et là, il y a des difficultés. Qualifiée, justement, dans et par son rattachement, et lui-même ayant été disciple, et ayant suivi la voie, en ayant eu l'expérience de celle-ci, la réalisation de celle-ci. Donc, qualifié par son rattachement, par sa réalisation, qualifié aussi ayant reçu une investiture, une accréditation de son propre maître spirituel qu'il a reconnu comme compétent et capable de continuer la transmission. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé ou improvisé. Et dans le Mahayana, l'ami de bien, le maître spirituel, est un bodhisattva, un vaillant, une vaillante, une personne qui a la réalisation de l'altruisme et de l'ouverture, de la bonté, de l'empathie, de l'amour, de la compassion altruiste et de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de non-appui, de l'ouverture au-delà des saisies et des concepts, et qui a ces deux réalisé dans ces deux dimensions, Karuna et Prajna, comme on l'a dit, qui était une personne qui vit en conformité avec son enseignement, qui est aussi une personne avec laquelle on peut communiquer, avec laquelle on peut parler, avec laquelle une relation interpersonnelle, amicale est possible. Une personne qui soit disponible, que l'on puisse dont on puisse suivre l'enseignement et les instructions de façon directe. L'essentiel étant que cette personne soit un vrai bodhisattva dans la bonté et l'intelligence, et avec toutes les qualités qui sont celles d'un bodhisattva. Et ce maître spirituel, cet ami de bien, nous montre ce qui est bon, comment ce qui est à accomplir, ce qui est à éviter. Il nous inspire dans la pratique, il nous inspire dans la vertu, ce qui est bénéfique. Il nous enseigne les quatre caractéristiques de l'enseignement de la parole d'un Bouddha. Tout est impermanent, les saisies sont douloureuses. Il est une tout dharma, toute chose, tout phénomène est dépourvu de soi, et au-delà des au-delà de la souffrance et de la confusion, il est une paix. Non, non. Il est ainsi la source, le porte-parole des enseignements, et il nous aide à nous libérer. Ce sont ses qualités. Il y a aussi dans cette relation des qualités du disciple. Il est nécessaire qu'un disciple véritable soit attentif, soit réceptif, soit disponible, soit courageux. La première qualité du disciple est la motivation. De la motivation vient l'entrain, le courage, l'assiduité. Et de la motivation vient aussi la réceptivité, l'attention. C'est lorsqu'un maître qualifié et un disciple réceptif se rencontrent qu'une véritable transmission profonde peut prendre place. Le disciple exprime sa réceptivité dans le service du maître ou de l'ami de bien. Service qui est d'abord de pratiquer l'enseignement, c'est le premier et le plus important, mais c'est aussi dans la disponibilité pour accomplir ce qui peut être utile et aussi faire offrande pour favoriser les activités de son ami de bien. C'est ce que l'on nomme traditionnellement les trois services. Donc, il est important de bien comprendre cette relation à l'ami de bien. C'est en étant un bon disciple dans une transmission intergénérationnelle qu'ultimement l'on peut devenir un bon maître. Et nul ne devint un bon un ami de bien ou un bon maître sans avoir été d'abord un bon disciple. Il y a donc dans l'établissement de cette amitié, de cette relation, une question de cœur, une question d'affinité, une question de discernement. Et c'est très important. Il peut y avoir toutes sortes de faux guides ou mauvais amis de bien. Et aujourd'hui, dans le supermarché spirituel contemporain, il est particulièrement utile et important d'avoir discernement. Avec des critères qui ont été énoncés, et aussi dans son sentiment. Il est important qu'il puisse y avoir... Il y a une relation de cœur, de confiance, et c'est celle-ci qui permet qu'il y ait une véritable relation, connexion profonde et transmission. Et lorsque l'on a trouvé ce noble ami de bien, le chérir, l'apprécier, le suivre avec confiance et, comme dit la stance, le chérir encore plus que son propre corps, l'affectionner ainsi, tel et la pratique d'un bodhisattva. Voilà cette sixième stance et un bref commentaire. Je vous invite, pour ceux qui en ont le texte, à ce que nous la chantions une fois avec la Maminyur Kamunze, en jodant, et ensuite nous aurons un moment pour réflexion, considération et questions-échanges.
Il faut s'épuiser les défauts de quiconque s'en remet à lui et fait s'épanouir toutes les qualités comme croit la lune. Chérir ce noble professeur plus encore que son propre corps, affectionné l'ami de vertu, telle est la pratique d'un bodhisattva.
Voilà. Et s'il y a des remarques, des observations, des questions sur cette stance, s'il vous plaît, que ce soit ici ou ailleurs.
Une question de Philippe de Lure.
Philippe de Mure, bonsoir.
Est-ce qu'un ami de bien doit obligatoirement être dans le dharma ?
Un ami de bien doit obligatoirement être dans le dharma. Alors après, la question est de savoir ce que l'on entend par dharma. On entend par dharma ici la réalité. Et dans la bonne réalité, dans l'expérience de la réalité profonde. Et c'est cette expérience de la réalité profonde qui fait de cet ami un ami de bien, un ami capable de nous guider vers cette bonté fondamentale, cette réalité profonde. Donc, en ce sens, oui. Mais et il peut y avoir différents aussi niveaux d'amis de bien. Ici, nous parlons de l'ami de bien en tant que maître spirituel, maître de libération au niveau fondamental. Et dans le contexte du Mahayana, il est important, le contexte de la voie universelle, que l'ami de bien soit dans cette réalité fondamentale, dharma, car c'est là où, dans cet enracinement, dans ce contact avec le bien, le bon et la santé fondamentale, qu'il peut véritablement être un ami de bien. Et cela ne signifie pas, par contre, qu'ils doivent adhérer à une catégorie particulière. C'est important et cette réalisation fondamentale.
Merci. Une question de Détienne de Marseille. Donc un ami de bien est forcément un maître. Et est-ce que ça ne peut pas être un frère ou une sœur du dharma ou des compagnons dans le sangha?
Et les compagnons dans le sangha sont des amis de vertu, des amis de bien à un certain niveau. Mais il y a une différence entre des bons amis et ici l'ami de bien au sens du guide spirituel, qui à ce moment-là n'est pas seulement un frère ou une sœur du Sangha, mais qui est véritablement une personne qui a les compétences que j'ai évoquées tout à l'heure et qui fait de lui un maître ou un guide au sens profond. On ne peut pas véritablement être aidé au niveau profond par des personnes qui sont, pour faire simple, disons, à notre niveau, des frères. Alors, il y a une émulation, il y a une entraide, mais si l'on... des personnes qui sont elles-mêmes encore dans les passions et dans la confusion ou les illusions comme nous le sommes, n'ont pas vraiment la capacité de nous guider et de nous permettre d'en sortir. Donc, il y a eu une aide relative que l'on peut assurément et certainement trouver dans des frères et sœurs du Sangha, mais ils n'ont pas la capacité à être véritablement le guide qui nous permette de nous libérer, d'arriver à la véritable libération.
Une question de Christian de Grenoble, mais nos lamas référents.
Christian, bonsoir.
Notre lama référent peut-il être notre ami de bien ?
Il y a des amis de bien à différents niveaux. Alors, lama référent, je ne sais pas ce que exactement c'est. Un véritable lama qui a une réalisation réel, peut-être un ami de bien. Mais il faut voir les qualités et celles que j'ai exprimées tout à l'heure. Et la première est la réalisation dans l'expérience authentique et stable de l'altruisme et de l'ouverture, de la vacuité et de la compassion. Karuna et Prajna. Autrement, un lama et peut-être on parlait de frères et sœurs du Sangha, ça peut être un grand frère ou une grande sœur. Voilà, donc, il y a différents niveaux ainsi, mais il est important que le véritable ami de bien est une compétence profonde pour pouvoir nous guider profondément. Attention. Il ne faut pas se lever trop vite quand on a les jambes ankylosées. S'il vous plaît.
Merci. Sur Internet, c'est tout. Il n'y a plus de questions sur Internet. Merci.
S'il y a parmi vous des remarques ou des questions ou des développements que vous auriez souhaité aborder.
Moi, j'aurais peut-être une question personnelle. Dans le livre de Dilgo Khyentse, Au cœur de la compassion, donc qui est le livre qu'on suit en partie pour cet enseignement, il parle en fait de la proximité d'un maître éveillé. Et est-ce que je peux vous lire juste le paragraphe ?
S'il vous plaît.
Le disciple qui ne peut s'empêcher d'avoir de nombreux doutes ou celui qui manque de perspicacité pourrait se faire des idées fausses sur le maître en restant auprès de lui. Dans ce cas, il est préférable qu'il reçoive les instructions et aille pratiquer ailleurs. On dit que la proximité d'un maître éveillé est semblable à celle d'un feu. Le maître consumera votre ignorance et vos obscurcissements si vous avez confiance en lui. Mais si votre foi et votre confiance ne sont pas celles qu'il faut, c'est vous qui serez consumé.
Oui.
Alors, moi, j'aurais une question. Je pense que c'est un tout petit peu différent de ce paragraphe.
Mais peut-être déjà, je vais laisser votre question juste pour un instant. C'est une remarque qui est un dire traditionnel très classique et très important qui est qu'on parle le maître éveillé un feu qui consume les illusions, qui consume les passions. Mais le feu est une énergie extrêmement intense par rapport à laquelle il est important de trouver, d'avoir la bonne distance. Trop loin du feu, il n'y a pas de chaleur, et trop près du feu, l'on peut se brûler. Et si l'on... La proximité du feu dépend de notre lien et de notre lien sacré, même on peut dire aussi de notre réceptivité et disponibilité. Mais si l'on aborde le maître d'une façon inadéquate, l'on peut en avoir un retour qui soit brûlant. Donc il y a effectivement une question de proximité, une parole célèbre dit de ceux qui ont vu le Karmapa, qui l'ont rencontré, nul n'ira dans les états inférieurs. De ceux qui vivent à ses côtés, il n'en est aucun qui n'ira pas en ces états inférieurs. On peut, à proximité du maître, développer, même si il a une activité éveillée, et même si c'est un maître authentique, on peut, dans la proximité, la familiarité, développer toutes sortes de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, ou entrer dans des jugements, etc., qui, à ce moment-là, deviennent très négatifs. C'est même arrivé autour du Bouddha Sakyamuni. Et votre question, s'il vous plaît ?
Alors, ma question, c'est... quand on pratique intensément ou personnellement en vivant ici, on peut... Alors je ne sais pas si c'est une transformation de l'esprit ou si c'est notre ego qui hurle, mais des fois on peut être extrêmement déstabilisé et avoir beaucoup d'émotions ou vraiment perdre pied d'une certaine manière. Et est-ce qu'il y a un moment où... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif ? Ou bien ça signifie qu'il faut s'éloigner, même si on a toute confiance en notre maître. Comment faire dans un cas comme ça?
Un centre du Dharma, une communauté, un ashram, est une sorte de chaudron magique. de chaudron... dans lequel il y a une certaine ébullition et un certain bouillonnement. C'est particulier à la vie en communauté ou simplement à la vie en proximité. Lorsque l'on est véritablement dans une proximité, nos individualités, nos égos se frottent les uns aux autres et il y a dans ces frottements, il peut y avoir des étincelles, disons. Donc, ça peut être intense, ça peut être chaud. C'est un phénomène qui est très connu. C'est une... si vous mettez 15 personnes dans un bateau pour une croisière de plusieurs mois, hein, vous êtes sûr d'avoir toutes sortes de scénarios qui se développent. Ça se fait même dans la télé-réalité. Hein, 10 personnes dans une maison pendant un certain temps. Voilà. Il y a un phénomène de... On peut appeler ça chaudron. Mais en même temps, cette dynamique, si on sait l'aborder, est extrêmement bonne, parce que elle nous confronte à nos propres difficultés, à nos limites, à notre propre névrose, et on ne peut pas rester comme l'autruche, la tête dans un trou, on est obligé de voir, et c'est un encouragement, une stimulation au travail véritable. Donc de ce point de vue, c'est une bonne chose. Donc c'est comme être dans un hôpital. En tout cas, c'est une situation pour pratiquer intensément, et la pratique peut avoir différents aspects. Ça n'est pas seulement s'asseoir tranquillement, c'est aussi dans l'interpersonnel et dans les relations, la confrontation à l'autre, l'ouverture à l'autre, et le dialogue, la vie ensemble, gérer ses difficultés, sa névrose, et aussi gérer celle des autres. Donc c'est une situation une mise en situation de pratique intense. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va vous donner le bâton de parole.
Tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, si on aborde l'ami de bien d'une mauvaise façon, ça peut être cuisant. Et alors, c'est quoi la bonne façon d'aborder l'ami de bien ?
La bonne façon de l'aborder, c'est avec respect, douceur et confiance. Pas une confiance aveugle, mais une ouverture de cœur et d'esprit qui permettent d'entrer véritablement en relation avec lui. La mauvaise façon de l'aborder, c'est de jouer avec lui, de jouer, d'essayer de... Il y a toutes sortes de stratégies, on peut... des stratégies de séduction, des stratégies de manipulation, des stratégies d'évitement. La bonne façon de l'aborder, c'est d'être authentique, d'être ouvert, à cœur ouvert, et nu, cru et brut, mais de façon véritablement simple et authentique, sans... en acceptant d'être ce que l'on est, et en sachant se montrer comme on est, et en même temps en ayant cette motivation de cheminer, et en étant dans cette motivation, dans une inspiration et une confiance qui permettent d'entrer dans la dynamique de la pratique et de la voix. Mais c'est l'authenticité qui est le plus important.
Mais alors des fois, on va avoir des... Il y a des choses que notre ego a envie de se cacher à lui-même. Il y a les défauts, il n'a pas envie qu'ils soient révélés ou de se les révéler à lui-même, enfin à soi-même. Et du coup, on va jouer Donc on va jouer à ce jeu-là avec l'ami de bien, j'imagine. Et comment, du coup, comment on fait pour être authentique là-dedans?
C'est justement là que se situe l'essentiel, et de ne pas cacher son ego comme il est, et de pouvoir s'ouvrir. Quand on dit s'ouvrir, c'est ouvrir soi, moi, son ego. Et c'est dans cette mesure, alors ça demande beaucoup de, ça demande un courage. C'est comme de se montrer nu. Il y a des résistances, mais c'est justement là que se situe cette amitié, cette relation de cœur qui permet de se dévoiler et d'entrer dans une relation véritable sans faux semblant. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir une guidance, des instructions, et d'entrer dans profondément dans la pratique. Et tout cela est quelque chose qui se développe petit à petit, et l'amitié au sens fort et la confiance qui scelle l'amitié, quelque chose qui se construit et qui se développe étape par étape aussi. S'il vous plaît, Benoît.
Bonsoir. Je voulais savoir si un ami de bien devait directement, si un ami de bien doit être directement un être éveillé, ou alors plutôt de passer étape par étape par un lama, je dirais, moins.
Un ami de bien doit être un vrai bodhisattva. Alors, un être éveillé, on ne sait pas ce que c'est vraiment un être éveillé. On sait ce que c'est quand on est soi-même éveillé. Donc, que ce soit un vrai bodhisattva, au sens où j'en ai parlé tout à l'heure, et qu'il ait les qualités, donc, d'un vrai bodhisattva, et à ce moment-là, il peut être un authentique ami de bien. Donc, ce sera la dernière question, si vous voulez.
Merci. Une question de Daya de Rouen. Daya de Rouen.
Daya, bonsoir.
Bonsoir Rinpoche. Faut-il vivre près du maître pour être un bon disciple?
Ça n'est pas indispensable d'être près physiquement. Par contre, c'est nécessaire d'être prêt spirituellement, ou d'être prêt dans le cœur. Il est important qu'il y ait une proximité de cœur et d'esprit qui n'est pas par contre nécessairement une proximité physique ou géographique. Par contre, il est nécessaire de pouvoir communiquer vraiment avec lui directement et de le rencontrer, qui est une véritable relation personnelle. Mais ça ne veut pas dire nécessairement d'habiter au même endroit. Voilà. Un petit moment de contemplation. suna sama dagi yong su zume je malu kinden tu chui me mango toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Sarva Mangalam, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, au revoir.